Bonjour, la ligne de partage des eaux est le titre d'un film de Dominique Marchais qui a aussi réalisé Le Temps des Grâces, un documentaire sur le monde agricole d'aujourd'hui. La ligne de partage des eaux a été projetée il y a quelque temps au cinéma Le Concorde. La projection a été suivie d'un débat en présence de Dominique Marchais. Comment choisir un sujet ?
Je ne sais pas si ce film a vraiment un sujet. C'est suite au Temps des Grâces. En fait, je pense que c'est la même question que Le Temps des Grâces, c'est celle du paysage. Qu'est-ce qu'il y a derrière le paysage ? Comment il est façonné ? Et donc Le Temps des Grâces, c'était vraiment, je me suis concentré sur la question agricole et l'évolution de l'agriculture. Mais quand je faisais ce film, j'étais dans les campagnes, on déjeunait parfois dans les routiers de campagne, et je voyais les agents de la DDE, tout le monde se connaissait, les élus, les techniciens de la DDE, le paysagiste conseil, la BF, je me dis quand même vraiment ça me passionne, je voudrais voir d'un peu plus près comment ça travaille localement. Et l'idée c'était d'essayer d'approcher la fabrique du paysage. On est dans une entrée de ville, il y a un rond-point, il y a une zone d'activité, il y a une rivière, et derrière tous ces objets-là, il y a une série de décisions qui ont été prises, des votes parfois dans des conseils municipaux, des crédits débloqués, et puis des réglementations techniques, des normes, tout ça. Donc, en fait, ça m'a toujours intéressé. C'est l'idée de démêler, quoi, de déplier derrière des objets qui sont vraiment très très banals. Essayer de voir ce que ces objets banals-là peuvent nous raconter de notre organisation politique.
La notion de territoire, ça peut être à la fois très large comme très serré.
Oui. Pour moi, dès qu'on dit le mot territoire, c'est un mot qui ne suffit pas à lui tout seul. On parle d'échelle de territoire, de mise en réseau, de connexion, de solidarité, c'est ça qui est intéressant. Donc là, par exemple, quand on est toujours dans ce débat sur la réforme territoriale, je trouve un peu dommage qu'on parle toujours du territoire pour y faire le ménage, quoi, comme s'il y avait toujours des choses en trop qu'il fallait remettre de l'ordre dans ce bazar, là, comme disait De Gaulle à propos de Paris dans les années 60. Il avait dit à de l'ouvrier, remettez-moi de l'ordre dans ce bazar. Ça ne me plaît pas trop, je ne suis pas sûr moi, qu'il y en ait de trop. Là où des gens s'organisent et créent une organisation ou une institution pour faire quelque chose, c'est que ça a une raison. Donc respectons ça. Donc oui, il y a des échelles de territoire, il y a des territoires qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et ça, c'est aussi la leçon des bassins versants. Donc on a ces sages, ces schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui sont à l'échelle de petits bassins versants, de sous-bassins, et qui rentrent tous en relation les uns avec les autres à l'intérieur du grand bassin, en l'occurrence celui de la Loire, puisque c'est dans le bassin versant de la Loire que le film se déploie.
Et qu'est-ce qui fonde la notion de territoire, sa cohérence, son identité ?
Là aussi, il ne faut pas vouloir, à mon avis, rationaliser trop vite, parce qu'il y a des territoires. Pour moi, il y a territoire quand il y a des gens qui ont le sentiment d'appartenir au même espace et quand il y a projet. Donc on peut dire qu'il y a des territoires géographiques qui sont parfaitement identifiables. Hein, le plateau de Millevaches, on peut dire voilà, il y a une entité géographique. Après, on peut toujours discuter exactement de ses contours, mais enfin, c'est relativement net. Il y a le territoire communal, il y a le territoire intercommunal. Et justement, cette question, elle est, je dirais que les territoires, ce n'est pas une donnée intangible, permanente. C'est des choses qui se reformulent en permanence. Et sur le plateau de Millevaches, c'est une séquence du film. Il y a un conseil communautaire où ils débattent du rapprochement, c'est plus qu'un rapprochement, de la fusion qui est organisée par le préfet de différentes intercommunalités. Et ils débattent entre eux de savoir s'ils vont rejoindre d'autres communautés de communes rurales du plateau pour faire une grande intercommunalité plateau de Millevaches, Alors, ça débat, voilà. Au moins, il y a un territoire géographique et il y a une intercommunalité à l'échelle d'un territoire géographique. En gros, on essaie de faire coïncider la carte administrative avec la carte de géographie physique. Puis, il y en a d'autres qui militent pour un rapprochement avec les villes de la vallée, Aubusson et Felletin, disant ça ne sert à rien de faire une grande intercommunalité de communes rurales pauvres. Et il y a quelqu'un dans l'Assemblée, dans le Conseil communautaire, qui dit c'est pas, dis-moi, cette notion de territoire, je m'en méfie un peu, c'est pas parce qu'on est voisins qu'on s'entend. Et puis il y en a un autre un peu plus tard qui dit voilà, dans ces questions de territoire, il y a les hommes et les femmes, donc tant qu'on s'entend, ça va très bien, mais après les gens ils changent, donc est-ce qu'effectivement, est-ce que notre organisation elle est pérenne? Et puis il dit, il y a la question du projet, voilà, du projet de territoire. Donc ce qui fait territoire, c'est le projet. Et au final, évidemment, ils ont choisi d'aller vers Aubusson-Felletin.
Projet politique?
Oui, projet politique, mais politique au sens large, c'est-à-dire que renaturer, revitaliser un cours d'eau, c'est un projet politique. Refaire une continuité écologique, c'est un projet politique. À Faux-la-Montagne, là encore, sur le plateau de Millevaches, ils ont créé une agence d'urbanisme rural pour dire, nous, on va essayer de penser notre urbanisation et de ne pas la laisser se faire comme ça, dans un impensé politique, justement, de vendre des parcelles à des promoteurs qui posent des maisons de catalogue dessus. Donc ça, c'est de la politique. Faire un atelier d'écriture architecturale pendant 2 ans où les futurs habitants construisent le cahier des charges de ce futur quartier, c'est politique. Toutes les questions spatiales sont politiques.
En fait, c'était pour essayer d'appréhender s'il y avait un aménagement de droite, un aménagement de gauche.
Je pense pas. Je ne pense pas. Je pense que il y a des recettes que tout le monde applique sans trop les questionner.
Il y a une pensée unique.
Oui. Oui, il y a une pensée dominante, ouais, en termes d'aménagement du territoire, mais elle est aussi bien partagée par la droite que par la gauche. Ça, c'est... par exemple, bon, dans le film, on peut voir cette histoire avec la création d'une zone d'activité à la périphérie de Châteauroux, sur une très grande superficie, 500 hectares, pour une ville qui compte déjà 2 grandes zones de commerce et d'activité, donc du coup avec un centre-ville qui dépérit. Voilà, encore 500 hectares de plateformes logistiques. Pourquoi faire? Le maire dit parce que j'ai été élu pour créer de l'emploi. Donc voilà, ça, c'est toujours cette histoire d'emploi, de croissance. Certes, mais une fois qu'on aura, comme le dit une habitante de Châteauroux, lorsqu'on aura coulé le béton, ce sera fini pour de bon pour l'agriculture dans ce secteur-là. Et est-ce qu'il y aura vraiment de l'activité dans cette zone logistique, il est permis d'en douter, parce que toutes les villes font la même chose au même moment. Elles sont en concurrence les unes avec les autres. Elles essaient d'attirer les quelques entreprises, Prologis ou autres. Elles espèrent capter quelques miettes du flux de camions qui va passer sur l'autoroute, dans un contexte où on se dit qu'il faudrait qu'il y ait quand même vraiment beaucoup moins de camions qui se passent sur les autoroutes. Donc en fait, c'est quand même un développement, enfin des aménagements qui ne tiennent pas compte des grands problèmes environnementaux enfin dans lesquels on est déjà engagé et qui ne vont aller qu'en s'amplifiant. J'entends le réchauffement climatique et l'épuisement des énergies fossiles. Donc voilà, l'aménagement, c'est beaucoup ça, c'est des solutions clés en main, comme disent les élus. Donc on confie les clés de la ville à des boîtes qui coule du béton.
Bonsoir, je voudrais déjà vous remercier pour ce film. Moi, je suis originaire du Limousin, donc ça m'a rappelé des bons souvenirs. À travers le film, vous avez traité une thématique gestion de l'eau. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de thématiques techniques qui sont abordées. Une thématique urbanisme également. Et je voulais simplement savoir si vous aviez songé à faire le lien à un moment donné sur la question de l'imperméabilisation des sols et la gestion des risques d'inondation, par exemple, pour faire le lien un peu entre justement la gestion de l'eau à travers le bassin versant et la problématique lotissement, urbanisme, zone industrielle.
Oui, j'y ai pensé, c'était sur mes tablettes, ouais. J'avais les contacts, j'ai parlé avec des responsables des plans crus à l'agence
sciences de l'eau ou à l'Adréal de bassin. Oui, parce que c'est un moyen. C'est effectivement la question de l'inondation. C'est un moyen de rendre très concret et tangible l'articulation rivière et urbanisation. J'avais des entretiens aussi qui parlaient de ça, notamment avec Bernard Rousseau, l'environnementaliste qu'on voit au confluent du Loiret et de la Loire, parlait beaucoup de ça. Après, voilà, c'est des arbitrages vraiment de montage. Il y a des passerelles, des jonctions qui finalement sont sorties du film pour des raisons très variées, parfois simplement parce que la séquence n'est pas très réussie. Ça, c'est des choses qui arrivent. Des fois, on a des séquences qui sont très réussies plastiquement, mais dont on n'a pas besoin, dont le film n'a pas besoin. Enfin, c'est les aléas du tournage documentaire, quoi. Les choses ne sont pas écrites, donc on les réorganise ensuite et on fait avec ce qu'on a.
C'est important d'aller à la rencontre du public.
Oui. Oui, c'est important. Ben, un film comme ça, c'est plusieurs années pour le faire. 4 ans. Donc, moi, je le fais pour qu'il soit vu, partagé, que les gens se l'approprient, que ça puisse leur apporter des éléments de compréhension de leur environnement immédiat, de leur place dans la société. Le film est fait pour ça. J'ai filmé beaucoup de choses. Il aurait pu être beaucoup plus long. Si je le faisais plus long, j'aurais limité son public potentiel. Et puis c'est important aussi pour moi de l'accompagner parce que j'ai filmé des gens qui ne m'avaient rien demandé, quoi. J'arrive dans des réunions, je filme les réunions, je leur demande s'ils sont d'accord. Bon, ce sont des réunions publiques, les gens disent voilà, filmez. Mais je les expose, donc c'est important que moi ensuite j'aille aussi à la fois expliquer, défendre, les représenter, ces gens que j'ai filmés devant le public. Que je m'expose à mon tour, en somme.
Moi, je m'installe dans la partie visible du spectre. Je filme personne au téléobjectif.
Vous établissez quand même une certaine distance avec la caméra est relativement en arrière de.
Bah, dans les rues, ça dépend. Enfin, dans les réunions, on est derrière les gens, on est autour. Enfin, on se met où on peut souvent. Il y a pas. Non, c'est sûr que ce que les personnes filmées ne peuvent pas imaginer, c'est la focale qu'on utilise. On peut être assez loin et filmer quand même, faire un gros plan. Et, donc, assurément, on expose des gens. C'est vrai.
Je ne sais pas s'il y a une règle en la matière. En tout cas, effectivement, vous demandez à celui qui préside l'Assemblée qui va être filmé. En l'occurrence, c'était avec moi. Ouais. Je connaissais votre autre film que j'avais apprécié, Le Temps des Grâces. Ouais. Je me disais, si le film prend le même parti, il va faire ressortir des choses qui pourront ne pas être appréciées par tous. Mais après tout, c'est aussi cela, l'engagement, le nôtre. Ouais. Il y a celui du documentariste, du réalisateur, il y a aussi le nôtre. Et ça, c'est un premier point. Le second, c'est que ceux qui parlent dans une assemblée s'expriment personnellement, mais ils s'expriment aussi au nom d'eux. Ils sont tous ici au nom d'eux. Donc chacun assume sa responsabilité quand il parle. Et puisque ce sont des réunions publiques, n'importe qui peut venir dans cette réunion. Le fait de la filmer ne me semble pas être, de ce point de vue, une transgression. À la règle générale qui est la règle publique. On pourrait, ce que vous disiez tout à l'heure me plaisait bien, le documentaire est quelque chose qui se construit, et c'est comme une fiction, mais qu'on construit après. On pourrait se dire qu'il y a risque de manipulation. Faire se renvoyer des discours, des images, seul le réalisateur peut faire ça. Me faire intervenir après quelqu'un d'autre en décontextualisant l'intervention, par exemple. Eh bien, moi je peux dire de ce que j'ai vécu qu'il y a une grande honnêteté dans la démarche. Une très grande honnêteté. J'aurais préféré que ce ne soit pas ce passage-là qui soit filmé. Ben, c'est celui-ci qui l'a été, ça s'est donc passé. Et c'est révélateur d'accrochages qui ont pu exister. Il y en a eu bien d'autres, de très nombreux autres.
Dominique Marchais, le réalisateur de La ligne de partage des eaux, est avec la complicité du cinéma Le Concorde, l'invité du magazine. Expliquer un film, c'est parce que c'est pas compréhensible.
Non, en fait, le film, je l'explique pas, vous avez raison. Il y a une attente de toute la profession et du public. C'est devenu un peu une habitude aussi d'accompagner les projections de films documentaires, de rencontres avec le public. Mais c'est aussi une façon de défendre la salle de cinéma comme lieu de rencontre, comme lieu qui participe à la vie publique. Ça, c'est un débat qui commence et qui va durer sur est-ce qu'on pourrait pas sortir les films directement sur Internet en VOD. Il y en a qui vont le faire là, très prochainement. C'est contribuer à un état du monde que par ailleurs on déplore, un état du monde très segmenté avec des gens qui travaillent chacun sur leur petit domaine. Et en appel à un partage ou à une mise en commun des expériences. Ouais, avec le Temps des Grâces, j'ai fait plus de 120 débats. C'est pas rien. Il y a des débats où j'ai quasiment pas parlé. La salle a échangé dans tous les sens. J'ai appris beaucoup de choses. J'avais passé beaucoup de temps à sillonner les campagnes en faisant le film. J'avais été beaucoup documenté pour le faire. Et en fait, ensuite, quand j'accompagnais le film dans les salles, je me disais, mais c'est fou, je n'ai qu'effleuré la question. Donc ces débats, ça m'a aussi servi à nourrir, à enrichir, à écrire le film actuel. C'est pas du service après-vente, c'est la continuation sous d'autres formes, toujours du même travail. Savoir pour moi un travail de connaissance, de compréhension du monde dans lequel je vis. Donc j'apprends beaucoup de choses pendant ces débats. Alors il y en a qui sont mieux que d'autres, c'est sûr. Je peux me retrouver dans des débats où parfois, effectivement, où les gens sont très très attachés sur sur des combats et attirent beaucoup la couverture à eux et empêchent les autres de parler. Voilà, mais ça c'est aussi... C'est la loi du genre.
Moi, ce que je retiens, c'est que j'y vois plutôt des rencontres. Vous avez pas mal filmé, finalement, des gens qui parlent ensemble. Et quand on parle d'égalité de parole, ce que j'y vois, c'est que, quelle que soit la personne qui parle, ou tout du moins les duos qui se font, les trios, la parole devient très intéressante. Voilà. Donc, souvent, les auteurs, ils parlent peut-être difficilement... Moi, aujourd'hui, je vais sortir de cette salle en retenant que vous êtes un auteur qui nous raconte, qui nous témoigne de paroles et de vécu d'échanges humains sur le territoire. Voilà. Avec un sujet qui est celui de la Loire et de l'eau. Voilà.
Il y a sans doute un certain nombre de questions qui reviennent.
Je n'ai pas encore assez de débats pour repérer des constantes sur ce film-là. Autant sur le précédent, là oui, j'aurais pu vous en sortir, ça, il n'y a pas de problème. À commencer par la signification du titre, ça, tout le monde me demandait la signification du titre.
Ça énerve, ça.
Oh, à la fin, ça devient un peu lassant, on est en pilote automatique au bout d'un moment. Mais non, sur ce film-ci, je ne sais pas. Si, quelque chose qui revient, c'était le cas pour Le Temps des Grâces, et ça va l'être aussi pour celui-ci, c'est la question de optimiste ou pessimiste. Le film. Il y a ceux qui le voient avec une lueur d'espoir, d'autres qui le voient très pessimiste, et toujours les gens me demandent si j'ai voulu faire un film pessimiste ou optimiste. Et alors là, c'est vraiment des questions qui me laissent un interdit, quoi, parce que donc je finis par répondre aux gens que ça dépend des jours, que je suis comme eux, quoi, et que j'ai pas voulu donner une coloration particulière au film, que j'ai essayé de lui donner une forme, de le faire un rythme, un équilibre, d'organiser des rimes, des échos à l'intérieur du film et de le faire le plus complet et miroitant possible. Après, les gens le chargent de leur propre expérience, savoir et humeur. Donc, on peut le voir très sombre ou optimiste, c'est selon. Disons que c'est pas mon problème.
Bravo pour le film que j'ai beaucoup apprécié sur aussi bien l'aspect des paysages filmés de manière très sensible et Et donc sur ces réunions collectives ou ces interviews.
Est-ce que dans le débat, on a plutôt tendance à poser des questions autour d'une thématique plus que la façon dont il est traité, c'est l'écriture cinématographique?
Si, c'est vrai. On parle rarement de cinéma dans les débats, oui. Surtout pour un film comme Le Temps des Grâces sur l'agriculture. C'est un sujet qui touche les gens, tout le monde a quelque chose à raconter. Je pense qu'avec La Ligne de Partage des Eaux, ce sera un peu moins vrai parce que la construction du film surprend, séduit ou déroute, mais les gens ont tendance à en parler. Donc, du coup, on se retrouve vraiment à parler de choix de narration, de choix esthétique, parce que les gens se questionnent sur pourquoi j'ai fait comme ça.
Quand ils ne se questionnent pas, c'est frustrant pour vous ?
Non, j'accepte très bien. Non, j'accepte très bien qu'on ne parle pas de cinéma. Après tout, il n'y a pas tant de gens que ça avec qui on apprécie parler cinéma. Donc si on parle politique, je suis content. Si j'apprends des choses lors de cette rencontre, je suis très content. J'ai pas besoin de parler de cinéma, j'ai pas besoin de défendre ou d'expliquer. Si les gens sont contents, il suffit que les gens... Voilà. Après, tout le monde parle avec son vocabulaire. Voilà. C'est drôle. Souvent, les gens en fait parlent de l'impression que le film leur a fait, du calme, de la présence de la nature. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont aimé dans sa forme. Ils sont pas censés l'analyser. Critique de cinéma déjà n'analyse plus les formes. Alors, on va pas demander au public de le faire.
Généralement, c'est juste après la projection du film. Donc, il n'y a pas le temps de maturation des esprits.
Oui, c'est sûr. Hein. J'ai entendu récemment quelqu'un, suite à un débat, enfin, m'a envoyé un mail en me disant qu'il commençait, lui, à se lasser de cette formule projection-débat. Je crains que si on remette le débat au jour d'après, les gens ne vont pas se déplacer deux fois. Tout le monde ne parle pas. C'est vrai que parfois, ces rencontres, ces débats, c'est une occasion de tribune pour certains. J'ai beau en faire beaucoup, j'ai pas forcément beaucoup de recul non plus parce que on est sur scène, quoi. Quand je sors d'un débat, parfois il dure assez longtemps, une heure et demie. Je n'ai pas les idées très claires, je ne me souviens pas de ce qui s'y est dit. C'est un moment d'exposition. Ces questions, vous pourriez les poser au public aussi, savoir est-ce que ça les intéresse, est-ce que si c'est intéressant que ça. On voit bien quand certaines personnes instrumentalisent, enfin se servent trop de cette occasion comme d'une tribune, on voit une partie de la salle partir en signe de désapprobation. Après, moi, je me demande aussi pourquoi certains sont aussi intéressés par des considérations biographiques, mais tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Il y a souvent des questions... Alors, à propos de... C'est pas tant des questions sur la forme du film que sur son processus de fabrication. Comment j'ai rencontré les gens? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Les gens sont très étonnés de la qualité des personnages, de la qualité de leur expression. Ils disent « Mais où avez-vous trouvé ces gens ?» J'ai dit « Mais ces gens, ils sont autour de vous. » La France n'est pas représentée. Ça, c'est quelque chose qui est frappant. Et quand on fait ces débats, c'est incroyable parce que les gens continuent à être intelligents et à bien parler. Et ils me demandent à ce moment-là comment j'ai fait pour trouver des gens qui parlent si bien. Ils ne se rendent pas compte qu'ils pourraient eux-mêmes être dans le film. Mais ça, ce sont des moments qui ne sont pas représentés par la télévision, par exemple, ou par les grands médias. Les commissions locales de l'eau, tous ces... conseils municipaux, c'est très important. Peut-être que si on les montrait plus souvent, peut-être que les gens iraient un peu plus voter. Moi, ça m'agace qu'on ne parle plus de politique locale que sous la forme du grand ménage. Il y a quelque chose qui ne me va pas. J'ai l'impression que l'État n'est pas tellement au service de la démocratie locale. Il devrait.
Ou alors il l'orchestre.
Il faut qu'il l'orchestre, oui. C'est ça, ça sert à ça, la réforme territoriale. On met sous tension, puis on regarde qui tient les marrons du feu. Il y a une phrase que j'avais utilisée pour mon scénario, une phrase de Tocqueville, « La commune est l'école de la démocratie ». Est-ce que la commune est respectée aujourd'hui par l'État? Je ne sais pas. Et je pense qu'on a tous à y perdre, et notamment l'État. Parce que si ce n'est à l'échelon communal, où va-t-on former des citoyens? Alors, c'est à se demander si l'État a besoin de citoyens.
Est-ce que vous refusez de répondre à certaines questions?
Oh non, ça m'est jamais arrivé de ne pas répondre à des questions. Non, non, non. Tout cela reste quand même très civil. Et... Enfin, moi, ça me dérange pas de même de parler de la tambouille avec laquelle on fait les films. Si ça intéresse les gens, moi, je raconte. Mais c'est, voilà, c'est faire un film, c'est comme tout. C'est le travail, on a les mains dans le cambouis, c'est... C'est de la débrouille, c'est de l'improvisation, c'est des intuitions, c'est du hasard. Mais ça, moi, je peux en parler pendant des heures, il n'y a pas de problème. Je suis pas sûr que ce soit passionnant, mais...
C'est toujours bienveillant.
Ouais, pas toujours. Il m'est arrivé... Enfin, non, mais la plupart du temps, oui, mais il m'est arrivé, avec le temps des grâces, d'avoir des gens assez violents, ouais. Bah, enfin, en l'occurrence, c'est toujours les mêmes. C'est des responsables agricoles, gens de la FNSEA. Les trois, quatre fois où ça s'est mal passé, c'était avec des leaders syndicaux, ouais, bien sûr. Mais moi, ça va, il n'y a pas de problème. Je me défends, je connais bien l'agriculture, je connais bien le monde agricole, et je les connais bien eux, ils ne me font pas peur. Et il y a beaucoup de gens aussi très bien, mais il y a des acharnés, ouais, il y a des gens violents. Ouais. Il y a des gens qui ont des comportements un peu de vieux style. Ouais. Il ne faut pas se laisser faire. Ce qui est dommage, c'est que... Il mène le monde agricole à sa perte. Donc, moi, c'est ça qui m'attriste, c'est que les agriculteurs choisissent mal leurs alliés. Mais vous verrez, le film, il y a un éleveur, Guillaume Douault, qui travaille au bord de l'estuaire, qui parle bien de ça et qui en appelle à la coopération entre les agriculteurs et les urbains et les environnementalistes et le conservatoire du littoral. Le seul avenir pour l'agriculture, c'est celui-ci. Il faut que les agriculteurs prennent conscience qu'ils se trompent d'alliés.
Et des fois, je me dis qu'un échange est toujours difficile à lancer. Et en même temps, sur ce film-là, il y a tellement de sujets, tellement de choses qui sont abordées, que ça m'étonnerait que vous restiez muet sur ce que vous venez de voir. J'ai l'habitude de dire que ces échanges avec les réalisateurs sont à la fois des moments où vous pouvez leur poser des questions, échanger, mais aussi donner votre sentiment, faire des déclarations d'amour. Si vous avez trouvé ça merveilleux, si vous avez aimé, n'hésitez pas.
Comment on met fin à un débat?
La bataille, c'est ça, faute de combattants. C'est souvent comme ça qu'on met fin à un débat. L'heure tourne et on voit voilà, les rangs se clairsemer, les gens faire un petit signe d'adieu. Et puis, à un moment, voilà, il y a quelqu'un, un responsable de la salle, qui dit « Bon, allez, on va boire un coup. » Et puis, ça s'arrête comme ça.
Bon, on verra si ce soir, ça s'arrête comme ça. Merci.
Merci à vous.
Vous avez pas mal filmé, finalement, des gens qui parlent ensemble. Et quand on parle d'égalité de parole, ce que j'y vois, c'est que, quelle que soit la personne qui parle, ou tout du moins les duos qui se font, les trios, la parole devient très intéressante. Voilà, donc souvent les auteurs, ils parlent peut-être difficilement. Moi, aujourd'hui, je vais sortir de cette salle en retenant que vous êtes un auteur qui nous raconte, qui nous témoigne de paroles et de vécu d'échanges humains sur le territoire. Voilà, avec un sujet qui est celui de la Loire et de l'eau. Voilà.
Ça va, on va peut-être pas...
Je ne sais pas, mais oui. En tout cas, je vous remercie encore de vous être déplacé.
Merci à
tous
vous.
Et toutes. Voilà. Merci.
Merci à Dominique Marchais, le réalisateur de la ligne de partage des eaux, pour sa libre participation à ce magazine, réalisé avec la complicité de Sylvain Clochard.
Chaque tournage donne des pistes pour le prochain tournage. C'est un tournage fragmenté, qui s'est étalé sur presque 2 ans, avec du montage, avec des moments de montage entre les moments de tournage. Donc à chaque fois, je redonne un coup de barre, quoi. J'ai l'impression, voilà, d'un bateau qui dérive, il y a des courants, et je donne des coups de barre pour essayer d'arriver quelque part.